Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement comme chaque samedi, deux grandes rubriques nous attendent dans la prochaine demi-heure. Nous parlerons bien entendu littérature avec cette semaine. Tenez-vous bien, les aventures hallucinante d'une famille de saltimbanques, ou si vous préférez, le dernier roman de l'un des auteurs tchèques les plus marquants de ces 25 dernières années. Ce sera donc dans la seconde moitié de cette émission. Mais avant cela, place tout d'abord à la culture, une rubrique dans laquelle il est question de belle et grande musique. Compositeur et chef d'orchestre français au rayonnement mondial, Pierre Boulez est mort il y a bientôt 2 ans de cela. C'était en janvier 2016. Il était âgé de 90 ans. Son ami et collaborateur, le producteur et metteur en scène allemand Rainer Moritz, a réalisé un documentaire sur la carrière de Pierre Boulez, sur sa personnalité, sa musique, ses recherches dans le domaine sonore et son souhait de partager sa passion pour la musique contemporaine avec le public. Fin septembre, Rainer Moritz a présenté son documentaire intitulé A Life for Music au festival de télévision Golden Prague, Zlatá Praha, au micro de Magdalena Rozinková. Le réalisateur a d'abord évoqué ses souvenirs personnels de Pierre Boulez.
J'ai connu Pierre Boulez en 1972 parce que j'ai réalisé son premier portrait quand elle était jeune chef à la Philharmonie de New York. Et nous avons travaillé ensemble sur les partitions dont on prenait les extraits pour le film. Et j'ai un très très bon souvenir, notamment de sa modestie, parce que on voulait évidemment également enregistrer quelques morceaux de musique composés par lui-même, donc pour des ensembles de chambre. Et ça se passait à Greenwich Village, donc dans le quartier latin, si vous voulez, de New York. Et l'orchestre insistait qu'on payait les 120 membres de l'orchestre, même pour des extraits des œuvres de musique de chambre où il y avait 6 ou 7 musiciens. Et Pierre a tout de suite dit « Non, dans ce cas-là, on ne fait pas ». Et depuis, on a très souvent travaillé ensemble. Et quand j'ai eu besoin d'un interview de lui, il m'en a toujours donné, même à la fin, quand elle était déjà très fragile. Je me souviens, il était à Salzbourg, il répétait le concert d'ouverture du Festival de Salzbourg et son entourage disait « pas question, pas d'interview, trop fragile ». Et je lui ai dit au téléphone « dites-lui que c'est de la part de Rainer Moritz ». Et une demi-heure plus tard, on me disait « bon, alors vous le cherchez au Schüttkasten où il faisait une répétition avec la Philharmonie de Vienne ». Mais pas plus qu'une demi-heure. Alors je le cherche au Schüttkasten et je lui dis en descendant les escaliers, alors on nous a averti une demi-heure. Alors il a rigolé, il a dit bon, une demi-heure en allemand, une demi-heure en français, une demi-heure en anglais. Et on a fait après exactement ce qu'on a voulu faire avec lui en anglais et en français. C'était lui.
Comment vous avez réalisé ce documentaire? C'est après sa mort que vous avez rassemblé tout ce que vous avez tourné avec lui ou comment?
Oh non, mais ça va plus loin. J'étais d'abord choqué par les nécrologies que les télévisions avaient préparées. Donc, ils avaient pris le matériel qu'ils avaient. Mais ça ne faisait, à mon avis, aucun sens parce que pour vraiment parler de la personnalité de Pierre, il fallait autre chose. Donc j'ai décidé simplement de faire un documentaire. Je me suis rapproché de la famille et la famille était tout à fait d'accord. Et son frère cadet était d'accord de donner une interview. Et dans la maison à Baden-Baden, où il habitait depuis les années 60. Et donc, j'ai essayé de montrer toutes les facettes de Pierre Boulez qu'on peut montrer, c'est-à-dire compositeur, chef d'orchestre et, très important, politicien. Parce que c'est grâce à Pierre Boulez que le Centre Pompidou a incorporé l'IRCAM, donc le studio pour la musique électronique et les recherches acoustiques, l'ensemble intercontemporain, qui est quand même une formation extraordinaire pour la musique contemporaine. Ensuite, la Villette, avec une salle pour la musique et notamment la musique contemporaine. Et en fin de compte, également la philharmonie, parce que sans Pierre, je ne pense pas que la philharmonie aurait été réalisée aussi vite que ça. Et donc, j'ai pris non seulement le matériel que j'avais moi-même, mais j'ai également demandé à des amis et des collègues de m'en donner, parce qu'on ne peut pas payer, les extraits sont trop chers, y compris, par exemple, les quelques minutes que j'utilise de Bayreuth quand il a dirigé la tétralogie que aujourd'hui on appelle la tétralogie du siècle. Donc on a ça, on a du matériel de Cleveland. Il était chef invité à Cleveland depuis 1965. Alors donc, Cleveland, pour lui, était très important. Et je suis très, très, très reconnaissant à Daniel Barenboim, qui était un vrai ami et compagnon de Boulez, qui a bien voulu me raconter toutes les choses intéressantes qu'il pouvait dire sur Boulez et sur les expériences qu'ils ont fait ensemble, notamment, évidemment, notation, ensemble de morceaux pour orchestre commandés par Barenboim à l'époque où il était chef de l'Orchestre de Paris, et toutes les aventures qu'ils ont fait ensemble.
Justement, on a tourné un documentaire sur Daniel Barenboim, un jeune documentariste tchèque. Elle a tourné sur son travail sur Ma patrie de Bedřich Smetana, qu'il a présenté au festival Le Printemps de Prague cette année. Quelle est la difficulté pour les réalisateurs de tourner un film sur un chef d'orchestre, sur la musique en général?
D'abord, il y a le problème de l'argent. Parce que personne ne donne les droits pour rien, ou très rarement. J'ai eu beaucoup de chance. Mais normalement, vous payez 3-4 000 euros pour une minute pour les droits monde, et donc ça limite vos possibilités. Mais on ne peut pas faire un film sur un chef d'orchestre sans montrer son travail. Et quand c'est avec les orchestres à l'étranger, ça coûte très cher. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que très souvent, on n'a pas droit d'entrer dans les salles pendant les concerts. Donc c'est toujours compliqué. Il n'y a pas de lumière supplémentaire. Donc il y a des problèmes techniques. En plus, les chefs d'orchestre eux-mêmes, très rarement, parlent bien de leur travail. Il faut quelqu'un comme un Barenboim, qui en plus est un raconteur avec un charme extraordinaire. Ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de chefs qui sont des chefs très très bien, mais leur soutirer quelque chose sur leur travail, sur les astuces, sur leur façon de soutirer des musiciens quelque chose, ce n'est pas facile.
Et Pierre Boulez, il aimait parler de son travail et de sa façon
Pierre Boulez était tellement rationnel et tellement clair dans sa pensée que pour lui, c'était aucun problème. Il pouvait discerner et décortiquer un truc facilement et sans problème.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait des études des mathématiques à l'origine. Ça, vous le racontez aussi dans le film. Et ce qui est très touchant, c'est justement la manière dont son frère raconte comment leur mère les a un peu poussés gentiment, tous les enfants, à faire de la musique, à jouer du piano. Donc, quel était ce paysage musical dans lequel il a grandi?
Évidemment, la rigueur de la mathématique est reflétée dans la façon de composer. Parce que pour Pierre Boulez, la question était entre autres si on pouvait pas seulement arrêter les 12 tons, donc dodécaphonisme, mais est-ce qu'on pouvait également contrôler tous les autres paramètres comme dynamique, vitesse, etc. Alors donc, il avait dans son esprit certainement une approche très mathématique à toutes les choses, une certaine rigueur, comme dit son frère Roger dans le film. Ça, c'est évident que la mère les a poussés à apprendre le piano, ça, c'est une autre chose. Curieusement, Pierre, apparemment, a tellement aimé le piano, Roger dit, pas seulement dans le film, mais dans les conversations qu'on a eues à part, qu'en rentrant de l'école, il se jetait sur le piano pour jouer du piano. Donc, pour lui, apparemment, l'instrument était une chose très importante et il aurait pu faire une très belle carrière de pianiste. S'il avait voulu. Et la composition, vraisemblablement, est venue avec les études qu'il a fait avec Messiaen, 45. Et en plus, il a eu une prof de piano à Saint-Étienne, à 30 km de Montbrison où il était né, qui l'introduisait à Debussy. Et je pense que Debussy et Stravinsky l'ont marqué à vie.
On dit de Pierre Boulez qu'il a révolutionné la musique du XXe siècle, qu'il a appris le public à écouter, à découvrir la musique moderne, entre guillemets. Êtes-vous d'accord avec ces définitions?
Oui, non, il est très clair que Pierre Boulez a commencé à d'abord exécuter les œuvres comme il fallait. Les autres, il y a beaucoup de chefs d'orchestre qui sont trop paresseux. Il y a beaucoup d'orchestres qui sont trop paresseux pour apprendre des choses difficiles et contemporaines parce que la musique évolue, évidemment. Les compositeurs deviennent de plus en plus complexes et ils trouvent des choses, des demi-tons, des quarts de tons ou n'importe quoi. Et ils trouvent également des techniques nouvelles pour manœuvrer les instruments. Donc tout ça, c'est du travail. Et dans le train d'une saison du répertoire, très peu de gens ont envie de faire ça. Alors Pierre, d'abord, il a composé ses programmes avec des œuvres classiques, des œuvres importantes de la musique des derniers siècles, plus des œuvres contemporaines, mais qui étaient brillamment exécutées, par exemple par la Philharmonie de Vienne ou par la Philharmonie de Berlin. Donc, c'était toujours des exécutions extraordinaires où les gens ont pu comprendre que peut-être c'était pas si mauvais que ça. Et je dois dire, en écoutant, par exemple, Notation 7 à plusieurs reprises pendant le montage, j'ai commencé à apprécier beaucoup cette composition de Pierre Boulez qui, de première vue, est difficile à comprendre, mais avec un peu de patience et un peu de travail, on va y arriver.
Voilà, c'était donc le producteur, pardon, et metteur en scène allemand, Reinhard Moritz. Reinhard Moritz, auteur d'un documentaire sur le compositeur et chef d'orchestre français, Pierre Boulez. Notre programme se poursuit, avec maintenant la rubrique littéraire, une rubrique littéraire dans laquelle il est question avec Václav Richter cette semaine des aventures hallucinantes d'une famille de saltimbanques, tout un programme.
Rencontre littéraire. Pour Yachim Topol, le processus de l'écriture est une sorte de mysticisme. L'écrivain attend d'être assailli par le sujet. La dernière vague d'inspiration qui a déferlé sur lui a abouti au roman Tsitlivi Chloviek, l'homme sensible. Publié récemment aux éditions Torst, ce livre tragique et grotesque à la fois raconte un voyage plein d'aventures, de conflits et de folies, tout en touchant les thèmes éternels que sont Dieu, la mort, la vie et l'amour. Yachim Topol est entré dans la littérature tchèque en 1994. Et ce fut une entrée fracassante. Son livre Sestra, la sœur, a été salué par la critique comme étant un des meilleurs romans tchèques de son temps et son auteur présenté comme un talent prometteur. Bien que Yachim Topol ne soit pas l'auteur d'un seul livre, les œuvres qu'il a publiées plus tard n'ont pas rencontré le même succès. Ce n'est que depuis la publication de son dernier roman, L'homme sensible, qu'une partie de la critique constate que l'écrivain a retrouvé la verve de son premier grand succès. L'homme est sensible. Quand tu fais une entaille dans sa peau, quelque chose commence à gicler de lui. J'ai cherché à saisir ses sensations quand on lui fait ça et quand cet homme arrive pourtant encore à en rire, à se bidonner. C'est ce qu'affirme Yachim Topol pour illustrer son rapport au personnage de son livre. En effet, l'auteur ne ménage pas les héros de son roman et le nombre d'obstacles quasi insurmontables et d'épreuves cruelles qu'il a placées sur leur chemin est effrayant. Leur voyage à travers plusieurs pays, qui est le sujet du roman, n'a rien à voir avec les plaisirs touristiques. C'est plutôt un voyage en enfer. Yachim Topol s'explique.
Já v té knižce považuji za důležitý úplně všechno, ale když jste zmínila tu rodinku těch
Pour moi, tout est important dans ce livre. Les personnages principaux, la famille de comédiens ambulants, les travelers, symbolisent pour moi et pour ma génération un immense tournant dans nos existences. C'est la période post-révolutionnaire qui a représenté pour nous un saut dans le vide, un saut dans la liberté, et aussi dans les processus compliqués d'acceptation de cette liberté. Ces comédiens, le père et sa femme, qui est beaucoup plus jeune que lui et qu'il appelle la fille de la révolution de velours, ont fini par se rassasier d'une certaine façon de cette liberté et cherchent à retourner dans leur région natale, dans la vallée de la rivière Sázava.
Le père, la mère et leurs deux fils, dont le cadet est encore un bébé, sont les protagonistes de cette histoire qui se complique et se ramifie au fil de la narration par d'innombrables épisodes et personnages secondaires. Après avoir traversé plusieurs pays européens, cette famille de comédiens de rue qui a subi le sort des migrants se retrouve dans une région séparatiste d'Ukraine. Dans les premiers chapitres du roman, elle échappe par miracle à une situation conflictuelle dans laquelle elle se retrouve bien malgré elle. Ce n'est cependant pas la fin des déboires de ces saltimbanques tchèques qui ne nourrissent maintenant plus qu'un seul désir, retourner dans leur pays. Ils ne savent pas que leur patrie, et avec elle la vallée de la rivière Sazava, le paysage de leur enfance, ont bien changé depuis leur départ. Ils ne se doutent pas que les aventures qui les attendent dans leur pays seront plus terribles et tragiques encore, mais aussi plus farfelues et grotesques que ce qui leur est arrivé auparavant. Yachim Topol mélange savamment le rire aux larmes, le tragique au comique.
Je crois que c'est la seule façon d'écrire qui puisse m'amuser. Qu'est-ce que j'ai rigolé? J'ai vraiment ri aux éclats en écrivant ce livre. Je me facilite le travail par le burlesque et le grotesque. C'est là quelque chose de typiquement tchèque. Nous n'aimons pas les grands mots, nous évitons de parler de Dieu et de l'amour. Nous sommes rudes, nous prenons tout à la rigolade. Mais je crois que si nous n'étions pas comme ça, nous serions incapables d'avancer et de faire le moindre pas.
Le lecteur risque de se perdre dans ce voyage à la cadence infernale où coups du sort et coups de théâtre s'accumulent, où les protagonistes se retrouvent à maintes reprises dans des situations sans issue dont ils parviennent pourtant malgré tout à s'échapper. Tout en donnant libre cours à une imagination effrénée, l'auteur s'inspire aussi dans une grande mesure de la réalité et de la vie politique. Il évoque par exemple les tendances racistes et les conséquences de la crise migratoire. Parmi les personnages du livre, le lecteur trouve entre autres le comédien Gérard Depardieu, le président Miloš Zeman et son ami Vladimir Poutine. Yachim Topol avoue craindre profondément une orientation plus à l'est de son pays. Il redoute que les Tchèques redeviennent des vassaux de l'Empire russe et ne veut pas que des situations semblables à celles qui se sont produites en Tchécoslovaquie en 1948 et 68 se répètent dans sa vie.
Je pense que c'est une tendance de nos deux derniers présidents, Václav Klaus et Miloš Zeman. Et il est possible que je la comprenne même un peu. En moi aussi, je ressens quelque chose comme un complexe de l'Occident. Je suis allé un peu partout, j'ai participé à des lectures publiques, mes livres sont publiés et c'est parfait, je devrais donc me réjouir. Mais je n'ai pas toujours les chaussures comme il faut, je ne parle pas bien anglais, et je pense que la source de l'orientation des deux messieurs que je viens de nommer vers le gigantesque ours russe se trouve dans une sorte de complexe. Quand on te respecte et qu'on t'applaudit à Moscou ou au Kazakhstan, tu te sens là-bas un peu comme chez toi. Ce que je ne comprends pas en revanche, c'est cette même tendance chez les Tchèques. Nous ne sommes pas l'Europe de l'Est, du moins je ne le ressens pas ainsi. Il s'agit d'un jeu politique bien moche.
Le style riche et coloré est probablement l'atout principal de cette tragicomédie violente qu'est le roman de Yachim Topol. C'est un mélange très expressif d'un langage hautement poétique avec toute une palette de mots et de locutions argotiques qui donne au texte un caractère très spécial et le rapproche un peu des célèbres effusions verbales de Bohumil Hrabal, auteur que Yachim Topol aime beaucoup. Le choix des thèmes et des personnages de ce roman est tout aussi impressionnant. Le romancier met en scène toute une communauté d'hommes et de femmes qui vivent en marge de la société, de petits délinquants et de grands voyous, de losers noyés dans l'alcool, de prostituées, de policiers corrompus, de jeunes avides de la vie et du bonheur, et de vieillards attirés par la mort. Et sur le fond des existences de cette population encanaillée qui vit sur les rives de la Sazava, Yachim Topol place astucieusement les dialogues et les réflexions parfois rocambolesques de ces personnages sur la vie, la politique, la vieillesse, le dépérissement, le suicide, l'au-delà et aussi sur Dieu. L'auteur avoue.
Je peux dire, et ce n'est pas facile à dire, qu'il me semble aussi entrevoir Dieu dans les moments les plus ingrats. Comme nous vivons dans une Tchéquie athée, cet aspect de la présence de Dieu n'a été mentionné dans aucune critique, comme si cela n'apparaissait absolument pas dans mon livre. Mais j'espère très fort qu'il y a une charpente, un plan intérieur de ce genre dans ce livre. J'espère que celui-ci tend d'une certaine façon vers Dieu, qu'il y a une aspiration chrétienne.
Takovéhle pnutí, řekněme pnutí k Bohu nebo křesťanský, že tam je. Le lecteur finit par se poser la question de savoir dans quelle mesure cette vision quasi apocalyptique de la communauté des gens sans lendemain correspond à la réalité et quelle est la part d'imagination de l'auteur qui a créé dans le roman une espèce d'exotisme des bas-fonds. Ce n'est pourtant pas le pessimisme qui se dégage de la condition des personnages de ce livre. Ceux-ci, en effet, malgré leur sort parfois tragique, échappent en général au désespoir et à la solitude. Cette impression est due évidemment à l'humour corrosif et à la verve satirique de Joachim Topol, mais elle correspond également à sa vision du monde.
Můj pocit ze života není vůbec černý nebo katastrofální. A myslím si, že
mon impression de la vie n'est ni noire ni catastrophique. Évidemment, on peut être confronté à des ennuis ou à des situations terribles. Notre vie peut être ruinée, on peut être désespéré, éperdu, malade ou que sais-je encore. Mais quand tu es bon et que tu as de la veine, tu as d'autres gens autour de toi sur lesquels tu peux t'appuyer et qui eux aussi peuvent compter sur toi.
On arrive ainsi lentement mais sûrement au terme de l'émission préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague en français, si possible dès ce dimanche avec la traditionnelle émission musicale. Bon week-end, ahoy.